Son alcooliste l'a fait faire. Mais ces bévues, si graves soient-elles, peuvent généralement être imputées à l'action anormale de l'alcool sur son esprit. Lorsqu'il boit ou se relève d'une cuite, un alcoolique qui a un modèle d'honnêteté peut faire des choses incroyables. On peut devenir voleur, manipulateur, toutes les heures qu'il peut avoir que l'alcoolique fait sur le fait de l'alcool. Après coup, il en est terriblement dégoûté. Ses bêtises sont presque toujours le fait de situations passagères. Il ne s'agit pas ici de croire que les alcooliques sont honnêtes et se comportent correctement lorsqu'ils ne boivent pas. C'est faux. Bien sûr, ils peuvent souvent abuser de votre confiance. Voyant que vous essayez de les comprendre et de les aider, certains alcooliques tenteront de profiter de votre bonté. Si vous êtes certain que votre employé n'a pas l'intention de cesser de boire, il vaut peut-être mieux le congédier et le plus tôt sera le mieux. Vous ne lui rendez pas service en le gardant. Congédier cet individu peut s'avérer un bienfait pour lui. Ça pourrait être juste le choc dont il a besoin. Puis aujourd'hui, avec les unions et tout ça, bien, c'est très difficile d'aller congédier un alcoolique. Mais avec le système qu'ils ont dans la plupart des industries, ils peuvent y aider et y faire comprendre qu'il y a une façon de s'en sortir. Personnellement, je sais que mon entreprise n'aurait pu rien faire pour me pousser à cesser de boire, car tant que j'ai pu garder mon emploi, je ne pouvais pas me rendre compte à quel point ma situation était grave. Si après avoir congédié, on avait entrepris de me mettre au courant de la solution contenue dans ce livre, je serais peut-être retourné à l'entreprise 6 mois plus tard, rétabli. Mais beaucoup d'hommes veulent arrêter de boire et vous pouvez aller loin avec eux. La compréhension dont vous pourriez faire preuve dans le traitement de ces cas-là pourrait vous rapporter. Peut-être avez-vous à l'esprit un homme de ce genre. Il désire cesser de boire et vous voulez l'aider, ne serait-ce que dans l'intérêt de votre entreprise. Maintenant, vous en savez plus long sur l'alcoolisme. Vous êtes en mesure de voir qu'il est malade mentalement et physiquement. Vous êtes prêt à oublier ses erreurs passées. Supposons que vous décidiez de l'aborder de la façon suivante. Première chose, vous lui dites que vous êtes au courant de sa consommation d'alcool et que ça doit cesser. Vous pouvez mentionner que vous reconnaissez son talent et que vous aimeriez le garder comme employé, mais que vous ne pourrez pas s'il continue de boire. Une attitude ferme à ce stade-ci a aidé beaucoup d'entre nous, les alcooliques. Deuxièmement, ensuite, vous ajoutez que vous n'avez pas l'intention de lui tenir un discours ni de lui faire la morale et que vous ne le condamnerez pas. Que si cela s'est produit dans le passé, c'est en raison d'un manque de compréhension de votre part. Si c'est possible, de lui montrer aucune rancune envers lui. Ça pourrait être le moment de lui expliquer la maladie de l'alcoolisme. Troisièmement, dites-lui que vous le considérez comme une personne gravement malade, qu'il peut même en mourir, et demandez-lui s'il désire se rétablir. Vous lui demanderez parce que de nombreux alcooliques qui sont intoxiqués, qui ont l'esprit faussé, ne veulent pas renoncer à l'alcool. Mais lui, veut-il cesser de boire? Prendra-t-il toutes les mesures nécessaires pour y parvenir? Est-il prêt à tout pour se rétablir, pour cesser de boire à jamais? S'il dit oui, alors continuez. Est-il vraiment décidé ou en son fort intérieur, croit-il pouvoir vous leurrer en se proposant de prendre un verre de temps en temps? Après s'être reposé et avoir subi un traitement, maison de thérapie ou quelque chose de ce genre, selon nous, il importe de sonder le sujet profondément sur ces points. Assurez-vous qu'il n'essaie pas de vous tromper ni de se tromper lui-même. Qu'il veut réellement arrêter de boire, s'il est prêt à tout faire pour s'en sortir, bien, on est prêt à tout faire pour l'aider. Nous laissons à votre discrétion le choix de mentionner ou non ce livre. Si l'employé hésite et croit encore pouvoir continuer de boire, même si c'est que de la bière, il faudra mieux le congédier la prochaine fois qu'il fera la fête, ce qui ne manquera pas d'arriver s'il est un alcoolique. Il doit absolument comprendre cet état de fait. Ou bien l'homme que vous avez devant vous veut et peut se rétablir, ou il ne veut pas et ne peut pas. Dans ce dernier cas, ne perdez pas votre temps avec lui. Ce conseil peut sembler dur, mais c'est généralement la meilleure façon d'agir. Après vous êtes assuré que votre employé désire réellement se rétablir, qu'il est prêt à tout pour y parvenir, vous pouvez lui proposer une ligne de conduite précise. Pour la plupart des alcooliques qui boivent encore et qui se remettent d'une cuite, un traitement physique est indiqué, même impératif, dit que c'est nécessaire. Cette question du traitement devrait bien sûr être mise entre les mains de votre propre médecin. Quelle que soit la méthode, le but de débarrasser l'esprit et le corps de l'alcoolique des effets de l'alcool. Il faut qu'il se désintoxe avant d'être capable de faire quelque chose. Cette désintoxication prend rarement beaucoup de temps et ne coûte pas trop cher lorsqu'elle est menée par des gens compétents. Votre homme se rétablira plus vite s'il se trouve dans une condition physique lui permettant de penser vraiment et de ne plus être obsédé par l'alcool. Si vous lui proposez cette méthode, il est possible que vous ayez à lui avancer le montant du traitement. Il est cependant important qu'il comprenne bien que toute dépense sera ultérieurement déduite de son salaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide de beaucoup des gouvernements pour les aider. Ceux qui ont de l'argent, bien, c'est certain qu'il faut qu'ils payent, sinon le gouvernement s'en mêle, puis il y a des traitements qui existent à peu près partout aujourd'hui. Il vaut mieux que votre employé se sente entièrement responsable de son rétablissement. S'il faut qu'il paye une part, il devra venir plus avisé de sa maladie, puis l'accepter. S'il accepte votre offre, vous devez lui faire remarquer que le traitement physique représente seulement une partie du programme de rétablissement. C'est sûr qu'il faut se rétablir, mais il faut arrêter de boire pour pouvoir se rétablir. Mais arrêter de boire, c'est juste la première phase. Même si vous lui procurez les meilleurs soins médicaux possibles, il doit comprendre qu'un changement intérieur doit également se produire en lui. S'il veut surmonter son problème d'alcool, il devra modifier son attitude ainsi que sa façon de penser. C'est ça que les étapes font avec nous autres. Les étapes nous font changer notre façon de penser assez drastiquement qu'on peut arrêter notre mode d'alcoolisme, on peut arrêter notre désir de boire. Chacun de nous a dû placer son rétablissement avant toute chose, car si nous n'étions pas rétablis, on aurait perdu notre foyer, notre travail, tout perdre puis mourir dans un appartement tout seul. J'ai vu des membres de ma famille vivre ça. Pouvez-vous avoir entièrement confiance en sa capacité de se rétablir? Et puisqu'il est question de confiance, pouvez-vous lui donner l'assurance que dans la mesure où vous êtes concerné, cette affaire est tout à fait personnelle et que ses bévues comme alcoolique, ainsi que le traitement auquel il se soumettra, ne seront jamais abordés sans son consentement? On n'ira pas dire à tout le monde que j'ai envoyé Joe à maison de thérapie puis qu'il t'apprête à se rétablir. On va dire qu'il est malade, il est passé par l'hôpital ou quelle que soit la raison. Parce que ça demeure encore quelque chose de pas correct d'être un alcoolique. Il y a beaucoup de monde encore qui ne comprennent pas ce que c'est réellement. Qui ne comprennent pas que c'est une maladie. Il serait indiqué que vous ayez une longue conversation avec lui après son traitement. Revenons-en au sujet de ce livre. Il renferme des suggestions concrètes s'adressant à l'employé désireux de régler son problème d'alcool. Quelques-unes des idées qu'il contient sont nouvelles pour vous. Peut-être n'êtes-vous pas très attiré par l'approche que nous proposons. Loin de nous l'intention de l'offrir comme la fin du fin. Cependant, en ce qui nous concerne, cette méthode a été efficace. Après tout, les résultats ne sont-ils pas plus importants que les moyens de les atteindre? Le docteur Bob, il nous dit « ça ne rate jamais ». Bill nous dit rarement, puis le docteur Bob nous dit « ça ne rate jamais ». Que cela lui plaise ou non, votre employé découvrira la triste vérité sur l'alcoolisme. Même s'il n'est pas convaincu de l'utilité du remède, celui-ci ne pourra pas lui faire de tort. Nous vous suggérons de mentionner ce livre au médecin qui s'occupera de votre protégé pendant le traitement. Si le patient lit dans un moment de profonde dépression, dès qu'il se trouve de nouveau en état de lire, il pourrait prendre conscience de sa condition, surtout s'il va lire l'opinion du médecin. Puis moi, j'impresse beaucoup là-dessus. L'opinion du médecin nous décrit notre maladie tellement bien. Il est à espérer que le médecin relèvera au patient la vérité de son état, quel qu'il puisse être. Au moment de donner le livre au patient, il vaut mieux ne pas lui dire qu'il doit se conformer aux suggestions présentées au fil des pages. La décision doit venir de lui. C'est pour ça que son sentier à l'opinion du médecin, il va être capable de comprendre. Puis il n'y a pas d'étape à faire dans l'opinion du médecin, il n'y a rien que des choses à comprendre. Vous êtes bien sûr prêt à parier que votre changement d'attitude et le contenu de ce livre réglera le problème. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Mais selon nous, si vous persévérez, vous serez récompensé par le taux de réussite. Notre œuvre prenant de l'ampleur et le nombre augmente en nombre augmentant, nous espérons que vos employés pourront être mis au courant avec certains d'entre nous, au contact avec certains d'entre nous. D'ici là, nous sommes certains qu'un bon bout de chemin peut être franchi par la seule mise en pratique des conseils de ce livre. Lorsque votre employé reviendra de sa cure, entretenez-vous avec lui. Demandez-lui s'il croit avoir la solution, s'il se sent libre de discuter de son problème avec vous. S'il sait que vous le comprenez et que vous ne serez pas outré par ce qu'il désire vous dire, il est probable qu'il se remettra vite à la tâche. Au fait, croyez-vous pouvoir entendre sans broncher les révélations bouleversantes que votre employé s'apprête à vous faire? Il pourrait, par exemple, dévoiler qu'il a gonflé ses notes de frais ou qu'il prétend de s'approprier de vos meilleurs clients. En réalité, s'il a accepté notre solution et, comme vous le savez, exige une rigoureuse honnêteté, il pourrait vous dire à peu près n'importe quoi. Êtes-vous prêt à faire une croix sur ses agissements passés comme vous le feriez sur un dossier d'un mauvais client et de recommencer à zéro avec lui? S'il vous doit de l'argent, vous pourriez lui proposer un arrangement. S'il vous parle de sa situation familiale, vous pourriez sans doute lui faire des suggestions utiles. Peut-il s'entretenir franchement avec vous s'il s'abstient de parler de secrets d'affaires ou de critiquer ses confrères. S'il peut vous faire confiance, tout employé dans cette situation sera envers vous d'une loyauté indéfectible. Nos plus grands ennemis à nous, les alcooliques, sont le ressentiment, la jalousie, l'envie, la frustration et la peur. Partout où les affaires réunissent des hommes, il y a de la rivalité. Cette rivalité naît certaines intrigues de bureau. Nous avons parfois l'impression que les gens tentent de nous déprécier. Souvent, il n'en est rien du tout. Mais il nous peut arriver que notre alcoolisme serve de capital politique à d'autres. Hein. Puis souvent, on pense que le monde parle de nous autres, puis souvent, ce n'est pas le cas. Et on se fait une image dans la tête, puis on vit avec ça. C'est pour ça qu'avec l'aide de Dieu, on peut demander qu'il nous enlève ces mauvaises idées-là. Il nous vient à l'esprit le cas d'un individu malicieux qui faisait constamment des petites blagues amusantes sur les exploits de buveur d'un collègue alcoolé. C'était une façon sournoise de faire du commérage. Un autre cas est celui d'un alcoolique qui a été hospitalisé pour y subir un traitement. Au début, seulement quelques-uns y ont su, mais en peu de temps, la nouvelle s'est répandue dans toute l'entreprise. Naturellement, dans un tel contexte, l'employé avait moins de chances de se rétablir. Souvent, l'employeur peut protéger la victime contre ce genre de raconteur. Il peut lui accorder davantage sa faveur, mais il est toujours possible d'empêcher quelqu'un d'être l'objet d'une provocation inutile ou d'une critique injuste. Comme groupe, les alcooliques sont des gens énergétiques. Ils travaillent dur et s'amusent ferme. Votre employé est sans doute prêt à déployer toute son ardeur à la tâche. Étant quelque peu affaibli et devant se réhabituer physiquement et mentalement à une vie dont l'alcool est exclu, il pourrait forcer la note. Vous pourriez être amené à freiner son désir de travailler 16 heures par jour. Il serait peut-être nécessaire de l'encourager à s'amuser de temps en temps. S'il désirait peut-être se dévouer auprès d'autres alcooliques, cela pourrait se produire pendant des heures de travail. Dans ce cas, une certaine latitude serait utile. Pour demeurer abstinent, cet homme a besoin de ce genre d'occupation. Une fois que votre homme aura passé plusieurs mois sans boire, vous pourrez utiliser ses services auprès d'autres employés alcooliques qui vous donnent du fil à retordre, à condition bien sûr que ces derniers consentent à ce qu'une tierce personne entre en scène. Un alcoolique rétabli, mais dont le poste est relativement peu important, est en mesure de parler à un autre dont le poste est plus élevé. Vivant sur une base totalement différente, jamais il prendra avantage de la situation. Vous pouvez faire confiance à votre homme. Certes, une longue expérience des excuses des alcooliques éveille naturellement le doute. La prochaine fois que sa femme téléphonera pour dire qu'il est malade, vous pourriez immédiatement conclure qu'il est ivre. Si c'est le cas, et qu'il est encore désireux de se rétablir, il va tout vous raconter, même s'il entraîne la perte de son emploi, car il sait qu'il doit être honnête s'il veut seulement rester en vie. Il appréciera le fait que vous ne cassez pas la tête à son sujet, que vous ne le soupçonnez pas et que vous ne tentiez pas non plus de le tenir le plus possible à l'abri de la tentation de boire. S'il suit consciencieusement le programme de rétablissement, il peut aller partout où les affaires pourraient l'emmener. S'il y a une rechute, ne serait-ce qu'une fois, vous devez décider si oui ou non vous allez le congédier. Si vous êtes certain qu'il n'est pas sérieux, vous devriez sans aucun doute le renvoyer. Si au contraire, vous êtes sûr qu'il fait de son possible s'en sortir, peut-être désirez-vous lui donner une autre chance. Cependant, vous ne devez pas vous sentir obligé de le garder car vous avez déjà fait votre devoir. Excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. Là, comment il nous reste de page là-dedans? On va finir ce chapitre-là, puis peut-être faire juste le résumé de la prochaine. Il y a une autre chose que vous pourriez savoir, que vous pourriez avoir envie de faire. Si vous êtes dans une grande société, vous pourriez passer ce livre aux jeunes cadres. Le petit boss, c'est bon qu'il lit l'opinion du médecin pour connaître la maladie toujours. Vous ferez bien de laisser savoir que vous n'êtes pas en mauvais terme avec les alcooliques de votre entreprise. Ces cadres sont souvent dans une position difficile. Il arrive fréquemment que les hommes sous leurs ordres soient leurs amis. Alors, pour une raison ou une autre, ils protègent leurs subordonnés, espérant que les choses vont s'arranger. Souvent, ils mettent leur propre poste en péril en essayant de venir en aide à des buveurs qui auraient dû être remerciés depuis longtemps ou auxquels on aurait dû fournir l'occasion de se rétablir. Après avoir lu ce livre, le jeune cadre peut aborder un employé et lui dire à peu près cela. Écoute bien, Ed. Veux-tu ou non cesser de boire? Tu me mets sur la sellette, tu me mets sur la sellette chaque fois que tu t'enivres. C'est injuste envers moi puis envers la compagnie. J'ai appris des choses au sujet de l'alcoolisme. Si tu es un alcoolique, tu es un homme gravement malade. D'ailleurs, tu te conduis comme tel. La compagnie désire t'aider à t'établir. Si la chose t'intéresse, il y a une façon de t'en sortir. Si tu acceptes cette méthode, ton passé sera oublié. Le fait de t'absenter pour te faire soigner ne sera pas mentionné. Mais si tu ne peux pas ou veux pas cesser de boire, je crois qu'il vaut mieux que tu démissionnes. Un jeune directeur en question peut ne pas être d'accord avec le contenu de l'olive, mais il n'est nécessairement ni indiqué bien souvent qu'il le montre à l'employé. Mais au moins, il comprendra le problème et ne sera plus leurré par des promesses habituelles. Il sera en mesure de prendre envers cet homme une position éminente, claire et juste. Il n'aura plus de raison de couvrir un employé alcoolique. Ça revient à dire qu'aucun employé ne devrait être congédié simplement parce qu'il est alcoolé. S'il veut cesser de boire, il devra réellement lui donner l'occasion de le faire. S'il ne peut ou ne veut pas renoncer à l'alcool, il devrait être licencié. Les exceptions à cette règle sont rares. Avec les unions aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur à faire, mais éventuellement, ça finit par se faire. Selon nous, la démarche proposée permettra de réaliser plusieurs choses. Elle donnera à des hommes de valeur la chance de se rétablir. En même temps, elle vous permettra d'en avoir aucune hésitation à vous libérer de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas cesser de boire. Peut-être l'alcoolisme posera-t-il des graves dommages à votre entreprise par des pertes de temps, d'effectifs ou de réputation qu'il entraîne. Nous espérons que nos suggestions vous aideront à remédier de cet état de fait. Nous voyons faire preuve de bon sens lorsque nous insistons pour que vous mettiez fin à ce gaspillage et que vous donniez une chance à l'employé qui en vaut la peine. L'autre jour, nous sommes allés rencontrer le vice-président d'une grande société industrielle. Voici ce qu'il nous a dit. Je suis heureux pour vous que vous ayez réussi à surmonter votre problème d'alcool, mais la politique de notre entreprise est de ne pas intervenir dans la vie privée des salariés. Si un homme boit trop, que son travail en souffre, nous le congédierons. Je ne vois pas de quelle façon vous pourriez nous aider, car, comme vous le voyez, nous n'avons aucun problème d'alcool. Cette même société consacre chaque année des millions à la recherche. Ses coûts de production sont calculés à la décimale près. Le personnel dispose d'installations récréatives, il bénéficie d'un régime d'assurance. L'entreprise se soucie réellement du bien-être de ses employés, tant pour des raisons humanitaires que son propre intérêt. Et l'alcooliste, non, il ne croit tout simplement pas qu'il existe dans ses vœux. Peut-être s'agit-il d'une attitude typique. Nous qui, comme groupe, avons une bonne connaissance du monde des affaires, du moins du point de vue de l'alcooliste, nous avons pu faire autrement que de sourire en entendant l'opinion sincère de cet homme bien-pensant. Il serait probablement renversé de savoir combien l'alcooliste coûte à son entreprise chaque année. Cette société compte sans doute plusieurs alcooliques actifs ou en puissance. D'après nous, les cadres de ces grandes sociétés n'ont souvent qu'une idée très vague de l'ampleur du problème chez eux. Même si vous avez l'impression que le problème n'existe pas chez vous, vous auriez avantage d'aller regarder de plus près. Peut-être feriez-vous des découvertes intéressantes. Si on nous dit de 10 à 15% du monde, c'est des alcooliques, fait que si on 1000 employés, mais il y en a 150, il y a des chances d'être alcoolique. Puis qu'on ne réalise peut-être pas. Ce chapitre porte bien sûr sur les alcooliques, les gens malades, les hommes dérangés. Les alcooliques que notre vie, vice-président, avait l'esprit, étaient des buveurs normaux ou des fêtards. Pour cela, sa politique était sans aucun doute sensée. Mais ne faisait pas la distinction entre ce genre de buveurs et les alcooliques. Il ne faut pas croire qu'on consacre à l'employé alcoolique trop de temps ou d'attention. Il ne doit pas jouer d'un traitement de faveur. Le vrai bon sujet, celui qui se rétablit, refusera ce genre de sollicitude. Il n'abusera pas. Loin de là, il travaillera d'arrache-pied et vous sera reconnaissant jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui, ça c'est Hank Parkhurst qui dit « Je suis propriétaire d'une petite entreprise qui s'appelait Work Publishing puis Honor Dealer. » C'est-à-dire deux. Work Publishing, c'est avec ça qu'il a fait imprimer le gros livre. Puis l'autre compagnie, Honor Dealer, c'est une compagnie d'huile qu'il avait formée pour essayer de compétitionner avec elle. Mais il n'était pas compétitionné avec son ancien boss. Parmi mes employés, il y a deux alcooliques dont le rendement au travail équivaut à celui de 5 représentants normaux. Ces deux employés qui disent, puis l'un, c'est Bill Wilson, puis l'autre, c'est Jim Burwell. Écrivez à cinq représentants normaux. Et pourquoi pas? Ils ont adopté une attitude nouvelle. Ils ont échappé à une condition de mort-vivant. J'ai vraiment savouré tous les instants que j'ai consacrés à les remettre d'aplomb. Il nous ramène à l'annexe, allez voir l'annexe 4, comment communiquer avec les alcooliques anonymes. La vie qui nous attend. Aujourd'hui, on est rendu à 20. Fait que ce que je vais faire, je vais vous lire seulement le résumé que j'ai fait de la vie qui vous attend. Je peux juste vous dire, peut-être, si vous avez votre gros livre, si vous voulez le marquer, me prendre en note, les promesses de la vie qui vous attend, peut-être que je vais vous les lire. C'est à la page 171. Ça commence au milieu de la page 171 jusqu'au milieu de la page 172. Ça, c'est les promesses de la première étape. C'est les promesses qu'on devra lire dans un meeting au lieu de lire les promesses puis faire croire au monde que c'est les promesses des AA quand c'est les promesses de la neuvième étape. Mais les promesses de la première étape sont là à page 171, 172. Nous avons montré comment nous avons repris le dessus. Sans doute pensez-vous, oui, je veux bien, mais est-ce que je devrais me résigner à mener une vie où j'aurai le même air stupide, ennuyeux et triste que je vois à certaines personnes virtueuses? Ça, c'est le nouveau qui arrive, puis je demande ça. Je sais que je dois me poser d'alcool, mais comment faire? Avez-vous quelque chose de satisfaisant à me proposer en échange? Puis notre réponse, c'est oui. Et même plus que ça encore, c'est le mouvement des alcooliques anonymes. Vous serez soulagé de votre ennui, de vos tracas et de vos soucis. C'est toutes des promesses. Votre imagination sera grandement stimulée. Enfin, vous trouverez un sens à la vie. Les années les plus heureuses de votre existence sont encore à venir. C'est ce que nous avons trouvé dans notre association. Il en sera de même pour vous. Le nouveau se demande, mais de quelle manière ça va arriver? Où va trouver ces gens-là? Vous ferez des nouveaux amis dans votre propre milieu. Tout près de vous, il y a des alcooliques qui se meurent sans secours, comme les naufragés d'un navire en détresse. Si vous demeurez dans un grand centre, vous en trouverez des centaines, riches et pauvres, de classe sociale élevée ou inférieure. Ce sont des futurs membres des alcooliques anonymes. Parmi eux, certains deviendront vos amis pour la vie. Ils se créeront en vous des liens nouveaux et merveilleux. Car ensemble, vous échapperez au désastre et côte à côte, vous entreprendrez le même voyage. Alors, vous comprendrez ce que signifie le don de soi, celui par lequel d'autres peuvent échapper à la mort et redécouvrir la vie. Vous apprendrez la pleine signification de « aime ton prochain comme toi-même ». Là-dedans, où j'ai lu, il peut sembler incroyable que ces hommes puissent devenir heureux et respectés et utiles. Là-dedans, j'ai découvert au moins 12 promesses. C'est les promesses qu'on devra lire. Si on lirait ces promesses-là, quand on fait nos meetings d'alcooliques anonymes, on aurait bien des chances que le monde peut comprendre un peu mieux, au lieu d'aller lire des supposées 12 promesses des alcooliques anonymes. C'est des promesses de la neuvième étape. Puis le nouveau qui arrive, mais c'est certain qu'il va être de la misère à arriver dans sa vie, ces choses-là. Mais ce qu'on vient de lire-là, ça va se produire immédiatement dans sa vie, s'il arrête de boire. J'ai fait un petit résumé. Pour les gens normaux, boire est synonyme de joie de vivre et que la vie est belle. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous voulions revivre le passé, mais chaque fois, c'était un échec. On a eu du fun déjà avec la boisson. On a eu du fun, on s'est amusé, peut-être au dépens des autres, mais on s'est amusé. Puis après ça, on est venu qu'on s'amusait plus puis on voulait retrouver la joie d'autrefois. Puis chaque fois qu'on prenait un verre, on se soulève, ça allait arriver à jamais. Nous nous retirions de la société et nous envisageons la confusion, la frustration, le désespoir et la terreur. L'alcoolique peut s'imaginer la vie avec ou sans alcool. Il souhaitera en finir avec la vie. Je veux bien arrêter. Dois-je mener une vie triste comme les gens qu'on connaît? C'est tout ça qui va arriver. Puis là, je ne les relirai pas, mais j'ai écrit les promesses. Est-ce que vous avez deux hommes se sont rencontrés pour arrêter de boire et par l'entremise du groupe d'Oxford, ils ont fondé notre association. La vie n'a pas été facile, mais ils ont compris qu'ils devaient demeurer spirituellement actifs en essayant de trouver d'autres candidats, puis un troisième, puis un quatrième. Ils ont commencé à se rencontrer sans formalité, un soir par semaine, pour rencontrer des nouveaux, et puis après ça, les faire capituler au deuxième étage. Le plus vite possible. dans une chambre au deuxième étage. Il avait eu la vision de la grande réalité, avec des lettres majuscules, qui est la voix de Dieu, de leur créateur, bon et tout-puissant. Les alcooliques viennent de villes, des villes environnantes. Quand ça a commencé à Akron, les villes de Cleveland, toutes les villes environnantes, ils venaient chez J.T. Williams là, pour aller assister à un meeting qu'il y avait au moins une fois par semaine. Ils viennent des villes environnantes pour recevoir la bonne nouvelle. La vie d'EA est plus que d'assister à des réunions. Il faut diriger les nouveaux vers des étapes et aider tout le monde en général. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas les Al-Anon et qui aidaient les familles, poignées que l'alcoolique, pour ressentir la force de Dieu. De petits groupes se sont formés peu à peu et aujourd'hui, on est dans plus de 190 pays. Et si vous êtes avec nous, si vous êtes avec nous et ne croyez pas remettre ce qu'on vous a fait et vous verrez les résultats. Si, je ne comprends plus ce que j'ai écrit moi-même, mais si vous êtes avec nous et n'y croyez pas, répétez ce qu'on a fait et vous verrez les résultats. Si vous ne croyez pas, si vous ne pensez pas, mais mettez-le à l'épreuve. Essayez-le de mettre votre vie avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Vous allez voir que ça marche. C'est plus la vidéo est plus que d'assister à des réunions. Il faut diriger les nouveaux vers les étapes et aider tout le monde en général pour ressentir la force de Dieu. De petits groupes sont formés. À peu près aujourd'hui, dans presque 190 pays, on veut dire ça. Les psychiatres, les pasteurs, les médecins, les maisons de thérapie nous réfèrent le patient car ils croient en nous. Notre livre nous présente des suggestions claires et utiles. Dieu nous en révélera sans cesse davantage. Nous ne pouvons pas transmettre ce que nous n'avons pas. Alors, assurez-vous que vos relations avec Dieu sont bonnes. Reconnaissez vos fautes, déblayez le passé, donnez généreusement et joignez-vous à nous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. On finit avec ça. C'est la vie qui nous attend, bien, c'est certain qu'on va aider les autres, mais on va avoir un réconfort qu'on n'a jamais pu avoir dans aucun autre. En tout cas, dans aucune de mes obsessions, puis je les ai toutes, je n'ai jamais eu le réconfort que ces sessions-là me donnent. Quand je vais avoir fini à soir, je sais que je vais pleurer parce que c'est tellement grand de voir tant de monde qui veulent se donner à ça. Puis je sais que vous allez, de votre part, vous allez partir, vous allez le donner à d'autres, puis on va continuer. Puis on espère qu'un jour, bien, tout le monde va avoir eu le choix au moins de comprendre ce programme-là, de se repentir, puis de se rétablir d'après les livres, du gros livre, puis les écrits qu'ils nous ont laissés là. C'est indispensable, c'est indéniable. Il faut penser qu'avant 1935, on n'avait pas ces situations-là. Aujourd'hui, depuis 1935, il y a une façon, on a trouvé une solution qui marche pour tout le monde. Il dit, je le dis souvent, c'est pas pour ceux qui n'ont besoin, c'est pas pour ceux qui le veulent, c'est juste pour ceux qui le font. Tu peux en avoir besoin plus que n'importe qui, tu peux le vouloir plus que n'importe qui, mais si tu ne le fais pas, ça ne va absolument rien donner. Fait qu'encore une fois, moi, je veux vous remercier des milliers de fois, puis je ne peux pas vous démontrer ma reconnaissance que j'ai que vous soyez avec moi. Puis j'espère que vous allez le dire à une autre personne pour qu'on puisse transmettre ce message-là le plus vite possible à plus de monde possible. Merci mille et une fois. Merci d'avoir été là avec moi pendant ces 15 semaines-là. Merci à France, à tout le monde qui ont travaillé là-dessus, Jean-Jacques, je ne connais pas tous les membres, ceux qui ont fait que ce meeting-là existe. Et puis là, chez moi pas, puis il y a toujours le mercredi midi à Victoriaville avec Joanne, puis le mercredi soir avec Pierre-Olivier. On est sur l'étude des gros livres. Si vous n'avez pas écrit les choses, vous pouvez me communiquer, puis je vais vous donner les coordonnées pour rentrer là. C'est tout sur Zoom. Mais je vous remercie encore une fois. Et puis, si vous voulez bien, on va fermer le meeting avec la prière de sérénité. Puis après ça, si vous avez des commentaires ou des questions, bien, vous êtes plus que bienvenus. Fait que mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Encore mille et un merci d'avoir été là avec moi pendant ces 15 semaines-là.